Bienvenue à Scal 16-17 avec Fulgence Plat au micro. Oui, c'est lundi. Belle journée de lundi. Comme ça, on démarre bien la semaine. D'ailleurs, ça a commencé depuis, c'est pas jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On est bien gâtés. Dame Nature ne nous a pas oubliés. On va faire avec. On arrête de chialer comme on chiale tout le temps au Québec. Voilà. J'ai un là-bas, la régie qui...
Attention à ce que tu vas dire.
Mathieu Tessier.
Il y en a un qui chiale pas sa température, c'est bien moi.
Alors, lui, Thibaut qui va nous parler après mon blablabla de quand l'alimentation commence à influer sur notre vieillissement. Ou alors, il y a des gens qui ont vraiment peur de ce mot vieillissement, vieillir. Ils veulent pas entendre parler de ça. Ils tiennent pour acquis, rester, être jeune, quoi. Et puis, à 16h15, elle est déjà avec moi en studio. Elle est arrivée avant son heure. Karine au micro qui vient nous parler de son premier album. Voilà, c'est ça, c'est bien ça. J'ai tout écouté. J'adore cet album-là. Et puis, à 16h30, Éric Giraud. Directeur responsable des recherches et de la collaboration Éco-Musée du Fier Monde vient nous parler de l'exposition Interluge, 45 ans d'innovation en habitation. Voilà, si vous voulez en savoir plus, restez à l'écoute. À 16h30, c'est lui, Éric Giraud, qui vient nous parler de ça. Et tout de suite, je laisse la parole à Louise Thibault. Bonjour Louise.
Bonjour Fulgence.
Allez, oui, alors vieillissement, on finit pas avec ça. Il y a des gens, ce mot-là effraie beaucoup de gens quand même.
Ben oui, on aime pas ça, mais ça fait partie de la vie.
Ah oui. Et oui. Je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas, chaque chronique est inspirée de ses livres qu'elle a déjà publiés aux éditions de l'Homme et de l'actualité scientifique et littéraire. Voilà, et je te laisse la parole. Aujourd'hui, il n'y a pas de coup de cœur, on va nous parler de vieillissement.
Bah oui, de vieillissement. En fait, je te remercie d'avoir mentionné mes livres parce qu'on se demande si je parle de la nutrition. Oui, mais je parle de tout ce qui entoure la nutrition. Et puis le vieillissement, ça fait partie de notre vie un peu comme se nourrir. Se nourrit puis on vieillit.
Oui.
Et on a déjà parlé de ça dans des chroniques précédentes. Et puis, Fulgence, je te l'ai dit et tu le sais, on commence à vieillir dès la naissance. Hein. Ça, c'est inéluctable.
Ouais.
Mais pour être tout à fait honnête avec toi et avec le public, il faudrait que j'ajoute qu'on commence à vieillir un peu avant la naissance. Exactement.
Tu as fait peur à des femmes qui sont enceintes actuellement. Là, dire mon fils il vieillit déjà ou bien ma fille vieillit déjà avant que.
il grandit et vieillit.
Oui, c'est vrai.
À partir de notre conception et tout au long de notre vie utérine,
oui.
Bien, il y a des changements qui se font. Hein, il y a des nouvelles cellules qui se forment.
Oui.
Mais à mesure que les cellules se forment, il y a de micro-dommages, il y a de micro-altérations.
Wow.
Commencent dans nos cellules, dans nos molécules, à se former, qui font en sorte que notre corps et notre cerveau, ils commencent à vieillir.
Explique-nous un peu, quels sont ces micro-dommages-là?
Alors, ce sont des petites défectuosités.
Oui.
Lorsque nos cellules croissent et se multiplient, donc il peut y avoir des petites erreurs qui se produisent dans nos cellules, dans nos tissus corporels, qui se font de façon tout à fait infime au début de notre vie.
Wow.
Qui, à mesure qu'on avance en âge, ces défectuosités-là, ces petites erreurs-là, s'accumulent souvent de façon aléatoire, selon ce qui est programmé dans nos gènes, et puis, c'est comme ça qu'on vieillit.
Ouais, j'aime beaucoup plus ce terme, avancer en âge, ou bien prendre de l'âge que de vieillir, ça fait peur.
Alors, à mesure qu'on avance en âge,
voilà.
et il semblerait que l'âge critique où tout ça pourrait s'intensifier, ce serait autour de l'âge de 30 ans.
Ah bon?
Bon. Alors, avis aux trentenaires.
Il y a des gens qui vont flipper là s'ils sont dans la trentaine.
Ah non, je suis rendue vraiment à l'âge critique. Oui. Alors, et qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce temps? Qu'est-ce qu'on fait pendant, alors qu'on avance en âge? Qu'est-ce qu'on fait? Oui.
Il faut prendre soin de soi, hein. Il ne faut pas se négliger.
Les amis, il y a une chose qu'on fait constamment.
Oui.
C'est nécessaire à notre survie. On se nourrit.
On se nourrit, on mange tout le temps.
Ben, on mange tout le temps.
On mange tout
peut-être
temps.
Pas toutes les minutes, toutes les secondes.
Ah, non.
Ben, certaines personnes, moi, je connais des personnes qui, bon, à chaque heure ou à peu près, vont manger un petit quelque chose.
Qui grignotent tout le temps. Ouais.
Ah, c'est ça. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais ça dépend de, ben, ça dépend de votre condition.
Oui.
Donc, on se nourrit. Et les scientifiques, ils ont étudié autant l'effet de notre nutrition quand on est dans le ventre de notre maman, la nutrition intra-utérine, que la nutrition post-naissance sur le vieillissement.
Wow.
Donc, il paraît que, en fait, il y a des preuves scientifiques quand même solides qui disent que notre nutrition à l'intérieur de l'utérus, elle aurait déjà un effet sur le vieillissement.
Wow!
Ouais. Donc, on a des modèles, présentement, des modèles animaux, devrais-je dire, parce que faire ça chez les humains, c'est pas éthique, qui étudient justement la prédiction du vieillissement futur des cellules.
Pour ceux qui ne le savent pas, Louise Thibault n'est pas seulement que docteur en nutrition, elle est aussi scientifique et chercheuse. Elle était professeure à McGill 30 ans.
C'est ça, j'ai étudié en neurosciences à l'Université Laval.
Voilà.
Et d'ailleurs, j'étais la seule fille du laboratoire où il n'y avait que des hommes et des biochimistes.
Ouais.
Alors, on me regardait un peu de haut, mais comme je suis très, très déterminée, j'ai...
Les hommes.
Et je suis devenue neuroscientifique, moi aussi.
Oui.
Alors, il y a très, très peu de nutritionnistes qui ont étudié en neurosciences. En fait, j'en connais pas au Canada.
Ah, OK.
Mais il y en a beaucoup aux États-Unis.
Ouais, OK.
Alors, on revient à nos moutons.
Oui.
En fait, ce qui peut prédire le vieillissement, qui commence à un âge très, 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 très jeune. Et cette programmation du vieillissement que nous aurions en chacun de nous, eh bien, elle progresse. Et puis, ce qu'on sait, c'est que la sous-alimentation ou la mauvaise alimentation, lorsque nous sommes à l'état de fœtus, pourrait nous prédisposer à développer des problèmes de santé plus tard dans la vie. Ça, c'est connu, ça, c'est du solide.
Ça commence très tôt, hein?
Oui, ça commence très tôt. Et ce qui commence à être mieux connu, c'est que cette qualité de l'alimentation, lorsque nous sommes des fœtus, pourrait influer sur les dommages qui mèneraient au vieillissement.
C'est notre développement, disons.
C'est ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui se fait de façon prédominante aux États-Unis, mais aussi en Asie. Et ça pourrait expliquer tout ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui vieillissent vite ou qui semblent avancer en âge plus rapidement?
Oui.
Est-ce que tu aimes cette expression?
J'allais dire.
Et d'autres moins. Alors, je connais de ces gens qui ne paraissent pas leur âge. Je connais peut-être. On a peut-être rencontré.
Oui.
C'est un. Donc, moi, j'en connais. J'en connais. Je suis très étonnée de connaître l'âge. Quand je demande l'âge chronologique d'une personne et qu'elle me dit qu'elle a 60 ans, parfois, je suis bluffée parce que cette personne-là a vraiment l'air d'une personne de 20 ans ou 10 ans de moins.
Et c'est ça. On appelle ça bien vieillir.
C'est ça. On appelle ça bien vieillir. Mais pourquoi on dit bien? On appelle ça bien vieillir, mais on pourrait peut-être dire vieillir plus lentement.
Ah oui, peut-être, oui.
Vieillir, est-ce que c'est si mal que ça?
Non, pas du tout. Oui.
Mais non, c'est ça. Mm-hmm. Alors, il y a des personnes qui, en fait, semblent avancer en âge plus rapidement que la moyenne.
Mm-hmm.
Et, elles ne paraissent pas leur âge. Et il y en a d'autres qu'on dit elles paraissent leur âge. Mais sur quoi est-ce qu'on se fie pour dire ça? Qu'est-ce qu'on se fie?
Oh, ça, c'est le trait physique, non?
C'est ça, oui. On regarde ce qui est visible.
Voilà. Alors, l'intérieur ne se voit jamais, alors. De toute façon, ouais, c'est le trait physique. On regarde la personne. J'ai 50 ans. Ah non, tu parais jeune, je te donnerais 35-40, voir bien.
Ah oui, oui. Mais est-ce que ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, c'est la même chose?
Non, c'est différent.
C'est différent. Alors, il y a quelque chose qui se cache derrière notre peau, derrière notre apparence, et ce qui se cache derrière ça, ça vieillit aussi.
Wow. Oui.
Notre peau avant son âge, mais notre cœur avant son âge.
Oui, tous les muscles qu'on voit pas, les choses cachées quoi, à l'intérieur. Waouh.
Ben c'est ça, hein. Et ça, ben malheureusement, on n'a pas le pouvoir de voir à travers les gens. Mais ben, avec des scans, avec toutes sortes de tests qu'on passe dans les labos, de recherches dans les hôpitaux, ben on voit, hein, l'intestin, on voit le foie, on voit le cœur, on voit les reins. Bon.
Mais je pense bien que c'est suite à ça qu'est née la chirurgie esthétique. Hein.
Ouais, la chirurgie esthétique, mais esthétique, ça ne couvre que la surface.
Le physique, l'extérieur. Hein? Et ouais, mais ce qu'il y a à l'intérieur, voilà.
C'est une chirurgie esthétique du cœur.
Oh non, je pense pas que c'est faisable pour l'instant.
Il y a pour l'instant. En revanche, certaines chirurgies cardiaques.
Pour l'instant, ça n'existe pas. Voilà.
De mieux fonctionner. De rajeunir, mais de mieux fonctionner. Donc, je trouve que ça, c'est que ça a quand même plus d'impact sur la santé que la chirurgie de la peau.
Voilà.
Ben oui.
La dernière minute qui nous reste.
Dernière minute déjà. Oh. Donc, moi, je peux te dire que je vais vous parler de ce qui explique pourquoi certaines personnes semblent avancer en âge plus rapidement que d'autres. Et ça s'appelle les réserves. Nous faisons des réserves dans notre corps et dans notre cerveau tout au long de notre vie. Ça commence quand on est fœtus. Et ces réserves-là, un peu comme un petit compte d'épargne, un petit compte en banque, nous permettre de mieux vieillir ou de moins bien vieillir.
Wow.
Et je vais vous en parler la semaine prochaine. C'est
aller beaucoup plus en profondeur.
Un peu plus en profondeur.
Un peu plus en profondeur. Merci beaucoup, Louise Thibault.
Je t'en prie.
Bon début de semaine. À bientôt. Bonne semaine.
Très, très bientôt, la semaine prochaine. Ça va aller vite.
Ouais. Au revoir.
Au revoir.
La pièce qu'on vient d'écouter, qu'on est en train d'écouter, c'est Move de Karine au micro. Ça, c'est son truc à elle. Personne d'autre ne peut faire mieux qu'elle. Karine au micro, elle vient nous parler de son premier album. Voilà. Karine, bonjour à toi d'abord.
Bonjour Fulgence.
Comment vas-tu?
Je vais très bien et
comment
toi?
Je vais bien, content de te revoir. Alors, comment il va cet album depuis qu'il est sorti? D'ailleurs, je n'ai pas pu aller au lancement de ton single. J'étais pas à Montréal,
oui.
C'est en fin de semaine, 29 septembre, je me rappelle la date.
Je vois ça.
Tu m'as pas vu, c'est que j'étais pas là, donc ouais. Tu m'en veux pas.
Non, pas du tout.
D'accord, je me suis dit de toute façon, je vais là. C'est ce que j'ai dit aux gens qui s'occupent de toi, à l'équipe, Pomeline et puis l'autre, Noémie, je leur ai dit, même qu'elle vienne en studio ou pas, de toute façon, je vais parler de son album, je vais jouer sa musique, entrevue ou pas, je vais.
Mais c'est merci en tout cas.
Comment il va ce nouveau bébé, ouais.
Bah écoute, il vient de sortir, donc pour l'instant, ça va, il fait son petit chemin, on va dire.
Oui.
Ça va.
Ça t'a pris combien d'années pour finir ce travail-là?
2 années. Pendant la pandémie, en fait, j'en ai profité.
La pandémie a permis à beaucoup d'artistes de créer quand même, parce qu'il n'y avait plus de spectacles, tout était fermé, tout était... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Karine au micro, c'est une Montréalaise d'origine béninoise. C'est son premier album, mais c'est pas son premier
projet.
C'est pas son projet. Elle avait déjà sorti à l'époque un EP là, au Lassie en 2018, je me rappelle, qui a fait son chemin aussi. Ouais. Et puis, je ne sais même pas comment j'ai rencontré la première fois. Quel spectacle accompagné de son pianiste David Mobio. Et je l'ai invité plusieurs fois à l'événement de poésie à l'époque au Gainsbourg. Mm-hmm. Oui, pour nous interpréter quelques pièces de son répertoire ou bien des interprétations. Elle est auteure, compositrice, interprète. Alors, comment Karine est venue à la chanson?
C'était un pur hasard.
Ouais.
Parce que j'avais commencé, je dansais en fait quand j'étais plus jeune.
Et tu étais danseuse.
Ouais, je dansais quand j'étais plus jeune. J'étais pas du tout derrière un micro, du tout.
Allez, explique-nous ça.
Bon, c'était les activités de jeunesse, on va dire. Donc,
oui.
J'ai commencé à danser.
Karine, puis... danseuse, qui est une chanteuse. Voilà, d'accord.
Et après, la chanson est venue en fin de lycée,
oui.
Où on organisait le spectacle de fin d'année. Et puis les organisateurs, enfin il y en a un qui est venu me demander si je voulais bien chanter. Donc j'avais commencé par dire non. Et puis il m'a dit si, je suis sûre que tu peux le faire, tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts. Donc je me suis prêtée au jeu. Et puis ça a eu l'air de plaire aux gens.
Oui.
Et puis après j'ai continué parce que c'était cool. Et puis après c'est devenu plus sérieux.
Et toi ça t'a pas plu?
Bon, c'était... disons que j'étais moins sûre de moi que la danse.
Tu as fait ce qu'on t'a demandé de
voilà.
faire. Voilà. Ah, ça plu aux gens, ça pas plu, non, voilà, ok. Donc, voilà, ok. Alors, voilà, le premier, l'EP, c'est fini, c'est phénoménal, c'est le nouveau. Ouais. Mais le single, le mot doux, je me rappelle du message que je t'ai envoyé.
Pour le single.
Oui, oui, super, single. Quand je l'ai écouté, j'ai dit voilà. Là. Mais quand j'ai reçu tout l'album de la barre de tes attachés de presse et autres, j'ai tout écouté. Mais cette pièce qu'on vient d'écouter là m'a giflé, quoi. Je me suis dit non. Ça, c'est une carrue internationale, ça. C'est
ben,
celle-là. Comme on dit en anglais, you nail it.
Merci.
Alors, comment tu as vu? Quels sont les artistes qui t'ont accompagné dans ce beau projet?
À la direction artistique, c'est toujours la même personne,
oui,
David Mobio. Et puis, pour les musiciens, en fait, c'est un peu ceux qui gravitent autour de moi.
Oui.
Donc, j'ai utilisé les mêmes et puis j'ai recommencé.
Oui.
On va dire ça comme ça.
Un changement de style complètement.
Oui, une
j'ai
évolution.
J'ai pas tout de suite reconnu ta voix quand j'ai commencé à écouter.
Il y en a beaucoup qui me disent ça.
Oh,
j'ai
ouais.
essayé de faire un peu plus grave à cause de... Du thème, en fait, de l'album et de ce que je voulais aller chercher, en fait, au niveau des émotions.
Oui.
Parce que, en fait, le titre de l'album, c'est « Dotona Asse », qui veut dire « écoute bien ».
Oui.
Et mes parents m'ont toujours dit « quand tu veux qu'on t'écoute, il faut que tu parles doucement, c'est pas nécessaire de crier
». Ah oui, ouais. Moi, quand on me crie dans les oreilles, je me sens agressé. Voilà, c'est comme ça, voilà. Ouais, je te laisse aller, vas-y.
Donc voilà, en fait, j'ai essayé de dire certaines choses, on va dire. Il y a des chansons, c'est des cris du cœur, des choses qu'on ne peut pas forcément dire parce que c'est pas politiquement correct, des choses comme ça. Donc c'est des thèmes un peu diverses que j'aborde et qui me tiennent aussi à cœur, c'est parce que je vais souvent avec ce que je ressens et les histoires que soit personnellement j'ai vécues, soit j'étais à côté de quelqu'un qui les a vécues. Mmh. Donc le but, c'est de dire aux gens ou de faire comprendre aux gens qu'il faut savoir lire entre les lignes. C'est pas parce que quelqu'un, c'est pas parce qu'on demande à quelqu'un est-ce que ça va et que la personne dit oui ça va que ça veut dire que ça va. On doit pouvoir avec l'intonation détecter que on répond juste pour répondre et on répond oui ça va parce que ça va vraiment.
On le fait tous les jours, on le fait tous, on est tous des menteurs sur ce plan, tous des comédiens, ça va oui
c'est
ça va.
Vrai,
merci.
C'est vrai.
Tu m'écoles la paix quoi.
Ouais voilà.
Faut pas aller dans les détails, même si je vais pas bien, est-ce que tu vas pouvoir merder alors
ben,
je raconte pas des trucs. Quoi. Alors, comment l'album a été accueilli par les gens, tes confrères, les autres artistes qui te connaissent, ceux qui te côtoient.
Les autres artistes, en tout cas ceux qui m'ont approché, ont eu l'air d'avoir apprécié. Mmh. Après, le public, je ne sais pas trop parce que j'ai pas encore fait de spectacle avec le nouveau projet, à part le lancement.
À part le lancement, oui.
Ouais, mmh. Mais sinon. Au Bénin, c'est très bien accueilli.
Ouais.
Ouais.
Il est déjà sur le marché là-bas.
Oui, parce que il y a le vidéoclip qui tourne déjà. Et puis j'ai rien demandé. Hein. Ils ont commencé à le faire passer dans les radios. Alors je suis bien contente.
On n'a pas besoin de demander. Les gens ils trouvent. Vous mettez tout sur YouTube pour nous autres. Là. Voilà.
Oui, mais il y en a. Il faut leur faire la cour. Il faut demander. Des fois même, il faut supplier. Donc, quand les gens le font spontanément, ça fait toujours plaisir.
Je dis souvent la générosité des artistes de nos jours avec les médias sociaux, surtout YouTube. Vous mettez beaucoup, beaucoup de choses là pour nous, les hommes de médias, les gens de médias. On va récupérer les choses. Je dis bon, merci à vous. J'appelle ça la générosité artistique. Ça nous permet de faire la promo en même temps sans toutefois vous demander. Parce que de toute façon, c'est... vous avez mis là, c'est pour qu'on puisse s'en emparer. Et puis bon, ben... on le fait que c'est la promo de l'œuvre de l'artiste qui a mis son œuvre à la disposition du public. Quoi.
Effectivement, mais là, il y a différentes sortes de presse. Il y a la presse qui le fait parce que c'est une vocation et parce qu'ils le prennent au sérieux et veulent le faire.
Oui.
Et il y a ceux qui ne le feront pas si on ne leur demande pas ou qu'on ne paye pas ou qu'on ne... pas. Donc, il y a différents groupes de presse.
On en parlera à une autre rencontre. Alors, c'est fait. Et les parents, comment ils ont réagi?
Oh, mais les parents, vous savez, les parents, ils sont contents. Ils sont très contents.
Est-ce qu'ils t'ont jamais dit, toi, avec ton histoire de chanson, la même où tu vas avec?
Non, ils m'ont jamais dit ça parce que...
Je connais un peu les parents africains.
Oui, je sais. Non, mais au départ, c'était plus de l'amusement, donc ça ne dérangeait pas. Et puis, j'ai continué les études à côté parce que je savais ce qu'on allait me dire. Mm-hmm. Mais après, par la suite, quand c'est devenu sérieux, vu que je ne dépendais plus d'eux, ils ont pris ça comme ça. Mais je sais que si c'était pas bon, ils me le diraient.
Oui.
Ouais.
Bravo. J'ai dit, mais c'est à eux d'encourager leur fille de pouvoir continuer dans sa voie parce que ça te fait plaisir. Et puis, je vous le dis, elle fait aussi de la radio. Hein. C'est KUT, c'est bien ça, non?
Oui,
c'est ça. Tu as ton émission là-bas tous les mardis à...
De 9h à 11h.
De 9h à 11h. Elle ne fait pas que de la chanson, elle fait aussi de la radio. C'est une collègue en même temps. Il va falloir que je l'invite ici de temps en temps pour les chroniques, alors. Alors, au fond... Si je m'en tiens bien, c'est pas fini, c'est ton premier album. Est-ce que tu veux laisser celui-là grandir, faire son chemin d'abord avant de... Tu chantes en Mina.
Oui.
C'est la première langue populaire au Bénin?
Non, pas du tout, c'est pas la première langue. Je dirais que la première, ça va être le fond.
Le
et
fond
puis
est
ensuite
plus parlé
le
au Bénin que le Mina.
Oui.
Le Mina en minorité.
Le Mina, en fait, vient plus du Togo.
Oui.
Et puis du Ghana à travers le Évé.
Oui, oui.
Et comme il y a beaucoup de croisements, on va dire, avec le Bénin, vu qu'on est juste à côté.
Avec la Côte d'Ivoire aussi. Hein,
oui.
Il y a des baoulés dans le nord du Togo.
Exactement.
Les Turcs aussi.
Ouais.
En Côte d'Ivoire, on dit baoulé au Togo, on dit Turcs aussi. Je ne sais quoi, là, voilà.
Oui.
C'est les Koufis, tout cela. Ils se retrouvent chez nous aussi en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que tu passes ta chanson à ton émission de radio?
Ben, ça m'est arrivé quand l'album est sorti. Ben oui, j'arrêtais bien ordonné.
Oui.
J'ai passé, je crois que j'en ai passé deux.
Oui.
Et demain, j'ai prévu d'en passer deux autres, justement, parce que je vois celles qui sont les plus écoutées, donc les plus appréciées, donc je vais les passer demain.
D'accord.
Ouais.
Alors, le prochain spectacle, c'est pour quand?
Le prochain spectacle
pour nous présenter sur scène cet album-là.
C'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine.
C'est bientôt, hein. Ne pense pas que c'est dans 10 ans là. C'est bientôt là. On a encore 3 minutes.
Non, c'est l'année prochaine. C'est au mois de janvier. Je me rappelle plus de la date, mais c'est en janvier.
Mathieu, enfin, nous remet la même pièce là dessus. On va avec ça, tu nous mets ça en fond sonore et puis je termine avec elle. Voilà, l'année prochaine, c'est dans quelques mois.
Hein. Oui, voilà. Dans quelques mois.
Oui.
À la Maison de la Culture à Annecy.
Oui, c'est déjà bouclé.
Oui, c'est déjà. Celles qui sont confirmées, je peux en parler. Celles qui ne sont pas encore confirmées, je ne peux pas. Mais j'en ai plus l'année prochaine, janvier, février, mars.
Oui.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que la musique signifie pour toi? La musique, pour toi, c'est quoi?
La musique,
oui.
C'est la vie. La musique, c'est la vie. Tout ce qu'on fait est imbibé de musique. Quand on parle, c'est de la musique. Quand on marche, c'est de la musique parce qu'on marche sur un certain rythme en fonction de l'humeur avec laquelle qui nous anime.
Oui.
Donc, c'est de la musique. Quand on rigole, c'est de la musique. Quand on crie, c'est de la musique. Donc, la musique, c'est la vie.
Oui. Un dernier mot, parce qu'on va réécouter un peu la pièce. Je l'adore tellement avant de te laisser partir. Un dernier mot à nos auditeurs, pour ceux qui n'ont pas encore leur copie, parce que c'est déjà... Allez-y, n'allez pas chercher une copie physique. Bon, on peut trouver ça aussi, mais de nos jours aujourd'hui, tous les albums se retrouvent sur toutes les plateformes numériques.
Oui.
Allez-y, l'encourager. Un dernier mot à nos auditeurs avant de partir.
Ben, je voudrais remercier tout le monde d'être présent déjà pour l'émission, parce que c'est grâce à eux que l'émission existe et continue d'avancer.
Oui.
Je voulais aussi demander d'encourager les artistes qui sont ici, parce que c'est pas toujours évident. On se bat, on reste debout, mais notre force, c'est le public.
Merci à toi, Karine.
Merci beaucoup
pour l'invitation. Merci pour ce bel album, d'ailleurs. Et n'hésitez pas, allez-y, toutes les plateformes. C'est Doto Nassé, c'est bien ça?
Doto Nassé.
J'ai mal prononcé, mais...
Non, c'est très bien prononcé.
Sorti depuis le 7 octobre.
Oui.
Merci à toi, au plaisir de te réentendre avec d'autres beaux projets.
Merci beaucoup.
Et puis bon vent.
Merci beaucoup.
Oui.
Écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie de l'émission. Là, on va avoir affaire à qui? À qui? Éric Giroux, qui est le directeur responsable et responsable des recherches et de la collection. Et de la collection à l'Écomusée du Fier Monde. Et il va nous parler de l'exposition Interluge 45 ans d'innovation en habitation. Voilà, en habitation. Oui, Écomusée du Fier Monde, 45 ans d'innovation. Je ne sais pas le rapport qu'il y a avec Interluge, la collaboration qu'ils ont. Il est mieux placé pour nous expliquer. Bonjour Éric.
Bonjour.
Merci d'avoir le temps de revenir encore nous parler de cette exposition. Quel est le rapport avec Interluge? Comment ils ont réussi à vous convaincre pour être impliqués dans ces, pour être partenaire même de cette exposition 45 ans d'innovation en habitation?
En fait, les liens entre l'Écomusée du Fier Monde et l'organisme Interluge sont quand même assez anciens.
Oui.
L'Écomusée du Fier Monde, pour rappel, a été créé en 1980 à l'initiative d'un organisme en habitation du quartier Centre-Sud qui s'appelait les Habitations Communautaires.
Ça vient de là.
Et les Habitations Communautaires Centre-Sud collaboraient déjà à l'époque avec Interluge Centre-Sud.
Oui, oui.
Donc, ça fait très longtemps qu'on entretient des liens avec cette organisation-là et c'est pas le premier projet qu'on fait avec eux, en fait.
Oui, Interluge. Oui, c'est tout. 45 ans d'innovation en habitation. Alors?
Oui. Alors, Interloge, en fait, a été créé par des jeunes du quartier en 1978. Déjà à l'époque, l'enjeu du logement dans un quartier comme le Centre-Sud était un enjeu sensible. On se souviendra, là, le quartier a été particulièrement touché dans les années 60, en fait, par l'arrivée de Radio-Canada. Hein.
Oui.
Radio-Canada va entraîner la disparition d'environ un peu plus de 1000 logements dans le quartier.
Wow.
Donc, c'est 5000 personnes qui ont été touchées par cet événement-là.
Quelle tristesse.
Alors, par la suite, les citoyens et citoyennes du Centre-Sud étaient très concernés par les enjeux de l'habitation.
Oui.
Alors, dans les années 70, il y a des gens qui se sont réunis et qui ont dit qu'il faut se donner un outil qui va permettre aux gens du quartier de rester dans leur logement.
Oui.
Et à cette époque-là, donc, on a créé Interloge, dont le mandat, au départ, était d'acheter des propriétés qui étaient à vendre, afin de les soustraire au marché spéculatif, si vous voulez,
oui,
et de les redonner aux locataires.
Mm.
Donc, on soutenait la création de coopératives d'habitation dans un premier temps.
Oui, oui.
Alors, on achetait les bâtiments, on aidait les locataires à se structurer en coopérative et ils devenaient eux-mêmes les copropriétaires de l'immeuble dans lequel ils habitaient.
Ah.
Alors, pendant à peu près une dizaine d'années, ce régime-là a très bien fonctionné. Par la suite, un peu plus tard, dans les années 80, il y avait moins de financement pour soutenir les initiatives de coopératives d'habitation. Bon, il y a eu une crise économique importante au début des années 80. Donc, les gouvernements ont commencé à resserrer un petit peu la ceinture. Et donc, Interloge n'a pas changé sa mission, c'est-à-dire qu'ils ont continué à acheter des bâtiments qui se retrouvaient sur le marché pour les soustraire à la spéculation. Ils les rénovaient et puis ils les louaient par la suite à un taux plus abordable. Donc, on parle environ... En 2019, on estimait que l'ensemble des logements possédés par Interloge étaient offerts à environ 35-36% un loyer inférieur à celui du marché. Donc, c'est appréciable pour les
gens. Oui, ça, il faut le dire. Il faut le dire.
Ouais. Donc, comme ils sont rendus à 45 ans de leur histoire, ils souhaitaient un peu retourner à leurs racines. Parce qu'en ce moment, Interloge sont sollicités par toutes sortes de projets.
Oui.
Bon, en plus d'acheter des habitations qui se retrouvent sur le marché, ils sont également impliqués dans des constructions neuves maintenant.
Oui.
Et ils sont en train de discuter aussi avec les grands promoteurs qui sont présents dans le quartier Centre-Sud. On pense entre autres au groupe Prével,
oui,
qui développe l'esplanade quartier à l'est du pont Jacques-Cartier, le groupe MAC. Donc, il y a des enjeux de logement social dans ces sites-là et Interloge pourrait s'avérer un partenaire important dans ces initiatives-là. Donc, Interloge est rendu à un point de son histoire où il y a des développements importants qui s'en viennent, mais souhaitait quand même retourner à ses racines, refaire un peu le parcours de leur histoire et faire connaître cette histoire-là au grand public, d'où l'idée de l'exposition.
Éric, je vous dis sincèrement, c'est grâce à vous que je viens de découvrir cet organisme. Je les connaissais pas du tout. Et en 10 ans, il y a eu 264 logements qui ont été revendus à 25 coopératives et à 2 au BNL.
C'est ça, oui, exactement. C'est
un très beau parcours, hein?
Oui, oui, oui. Et c'est une façon aussi de préserver le patrimoine. Parce que vous savez, quand un promoteur achète une maison, ben ça peut lui arriver de tout raser,
oui,
ou encore
oui,
de modifier en profondeur. Donc, par exemple, un triplex, il va tout ouvrir de l'intérieur et ça va faire une seule unité d'habitation. Alors, on fait disparaître des logements pour les familles.
Mm-hmm.
Alors, Interloge, ils font pas ce genre de transformation-là. On rénove, on maintient les logements, on maintient les divisions à l'intérieur.
Oui.
Donc, on préserve d'une certaine façon une forme de patrimoine qui est modeste, qui n'est pas un patrimoine spectaculaire. On ne parle pas d'édifice public d'une grande église. On parle d'un patrimoine résidentiel, de l'habitation ouvrière qui a été construit à la fin du 19e, début 20e siècle.
Oui.
Alors, c'est une mission qui est importante aussi de préservation du patrimoine.
Mmh. Est-ce qu'on peut dire que Interloge est devenu un acteur incontournable en habitation?
Tout à fait, oui. sont très présents dans le quartier, mais ils ont commencé à développer des projets à l'extérieur du quartier aussi.
Oui.
Donc, en ce moment, ils ont des projets à Saint-Hyacinthe, Saint-Adèle,
wow,
à Laval. Alors, oui, ils sont interpellés de plus en plus, puis ils développent de nombreux partenariats avec d'autres organisations.
Mmh. Comment se passe l'exposition? Ça a commencé depuis le 20 octobre. Hein? Mmh. Ça va jusqu'au 5 mars.
Exactement. Oui. Mm-hmm. C'est une grosse exposition de l'année.
Oui.
Ça va bien, mais le vernissage va avoir lieu ce jeudi. Donc, le démarrage a été un peu timide, mais après le vernissage, ça devrait vraiment prendre son envol.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, de toute façon, c'est jusqu'en mars 2023, c'est j'ai ça. Le temps d'aller visiter tout ça. Et comment se passe le circuit urbain logement loué? Est-ce que les gens affluent? Est-ce que comment? Oui, ça, j'étais très content de voir ça d'ailleurs. Logement, circuit urbain.
Les visites étaient bien remplies.
Oui.
En fait, ce circuit-là nous permet d'aborder plus largement l'enjeu de l'habitation.
Oui.
On fait vraiment un survol historique. Mmh. On parle du développement du quartier à partir du milieu du 19e siècle. Ça a été quoi les enjeux de logement à l'époque?
Oui.
À l'époque où on construit de nombreuses usines, où on doit loger des familles ouvrières qui sont de plus en plus nombreuses à venir vivre ici.
Oui.
Alors, on parcourt les rues. On regarde les formes de l'habitation ouvrière, donc des duplex avec pas d'escalier extérieur, les triplex. On parle des modes d'occupation de ces logements-là, parce qu'une des pratiques importantes, fin 19e, début 20e, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, souvent on retrouvait à l'intérieur de ces logements-là plus d'une famille. C'est-à-dire que, par exemple, on a une famille, l'aîné se marie et donc il s'installe avec ses parents quelques années parce qu'il n'a pas encore les moyens d'avoir son propre logement. Alors, il y a beaucoup de partage de logements comme ça.
Mm-hmm.
Des gens qui sont plus âgés, qui ont vu leurs enfants quitter le foyer, ben parfois pouvaient louer une chambre à d'autres travailleurs ou à des familles en début de vie commune.
Mm-hmm.
Moi, ma mère est née dans ce quartier-ci et lorsqu'elle est née, ben ses parents habitaient dans une pièce double dans le logement d'une dame qui était âgée, que ses enfants étaient tous placés ailleurs.
Oui.
Elle louait les pièces de son appartement à d'autres couples ou d'autres travailleurs du quartier.
Oui.
Alors, ça a été des pratiques importantes. Et ensuite, dans le parcours de ce circuit-là, ben, on voit aussi un certain nombre de projets réalisés par Interloge.
Oui.
La première coopérative sur la rue Montcalm, on passe devant, on voit un peu la nature des travaux qui ont été faits. On donne quelques informations sur les transactions, donc combien coûtaient les habitations à la fin des années 70-80.
Oui.
Bon, certaines d'entre elles coûtaient 30 000 $ 40 000 $ Alors, on voit un peu comment les choses ont évolué. Puis on se dirige tranquillement vers le site de Radio-Canada, parce que c'est vraiment un site emblématique de l'enjeu du logement dans le quartier.
Oui.
Et on en parle abondamment. On parle abondamment de l'arrivée de Radio-Canada, mais aussi d'une certaine façon de son départ, parce qu'on sait qu'ils ont vendu l'ensemble de leur site. Ils se sont réinstallés dans de nouvelles installations tout près de la rue Papineau.
Oui.
Et le reste du quadrilatère va être redéveloppé là, par un promoteur qui s'appelle le groupe MAC.
Oui.
Et donc, on parle de tout ça aussi dans le circuit.
Oui.
Et on termine le circuit là où se trouvent aujourd'hui les bureaux d'Interloge, qui sont en fait situés dans un bâtiment qu'ils ont acquis en 1987, mais qui se trouve juste devant le premier bâtiment qu'ils ont acheté, donc au coin de La Fontaine et de Alexandre de Sèvres.
Un bâtiment historique.
Oui.
Oui. Et comment se passe là? Qui a le droit d'assister au circuit urbain logement loué? Le dernier d'ailleurs, il y a eu le samedi 10, 17 septembre, le samedi 1er, 8, 22 octobre, et le dernier circuit, c'est le 29 octobre. Comment ça se passe?
Le dernier, c'est le 29 octobre. Les gens ont simplement à nous écrire ou à appeler pour réserver leur place.
Oui.
Mais comme c'est le dernier, le 29 octobre, il y en aura probablement d'autres au tout début de novembre.
Là, d'accord.
Il y a la possibilité d'en ajouter.
Oui, oui, oui. De toute façon, l'exposition va jusqu'en mars 2023.
Oui, oui, oui.
Voilà, ça c'est très important, il faut le dire d'ailleurs, parce que là vraiment, c'est... Quelles sont les heures d'ouverture là, du musée?
Nous, on est ouvert du mercredi au dimanche.
Oui.
Donc, le mercredi, c'est de 11h à 20h.
Oui.
Jeudi, vendredi, 9h30 à 16h. Mmh. Les samedis, dimanche, 10h30 à 17h.
Oui.
Et peut-être, élément important à mentionner, l'écomusée est gratuit tous les premiers dimanches du mois.
Gratuit alors, tous les premiers dimanches du mois?
Tous les premiers dimanches
toute du l'année.
Mois. Mmh. Toute l'année.
Oui.
Donc, le prochain sera le dimanche 6 novembre. Donc, ça approche à grands pas.
Oui, oui. On n'a pas besoin de se couper les cheveux en quatre pour dire non, j'ai pas d'argent pour aller payer des $12 ou bien, voilà, quelque chose comme ça de ce genre. Le tarif reste le même, mais c'est $12 adulte.
Le prix régulier, c'est $12, effectivement.
Et les étudiants, les enfants.
Étudiants, personnes âgées, mais aussi si les gens viennent avec une carte Opus ou un type de transport de la SPM, c'est $6. Carte CAA, il y a comme toutes sortes de rabais aussi qui sont accordés.
Oui, 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 famille, deux adultes, trois enfants, je vois ici, $18. Oui, oui. Wow. Oh, génial, c'est vraiment quelque chose comme ça. Voilà, qu'est-ce que vous, pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient bien s'adresser bien aller prendre part, aller visiter, comment dirais-je, l'exposition, ou bien s'adresser directement à Interloge. Si quelqu'un qui est à la recherche d'un logement, d'un appartement pas cher, comment s'y prendre? Comment ça se fait? Est-ce qu'on peut les contacter directement? Ou bien il faut simplement attendre à ce qu'on ait quelque part dans une rue, logement loué?
Non, si on ne voit pas le logement loué, c'est maintenant très rare.
Oui.
Si on va sur le site internet d'Interloge,
oui.
Je crois qu'on peut se mettre sur une liste d'attente.
Oh,
malheureusement, ils ont une longue liste d'attente.
Oui.
On sait que c'est un enjeu qui dépasse les frontières du quartier ou de Montréal.
Ça
touche presque toute la province.
Oui.
Mais effectivement, ils ont des listes d'attente. Là. Alors, il y a moyen sur le site Internet de s'inscrire sur une liste d'attente.
Mm-hmm. Quand je vois un peu dans le communiqué le nombre du parc immobilier de l'organisme qui comprend 750 logements, 28 locaux non résidentiels, distribués dans 55 immeubles sur un territoire d'intervention dépassant largement le centre sud. Mais je dis, ils font un beau travail comme ça. Je me suis dit, qui est financièrement parlant? Est-ce que le gouvernement provincial vient en aide à cet organisme?
Ben, en fait, la façon dont cet organisme-là fonctionne, c'est que dans certains projets qu'il développe, il faisait affaire avec un programme qui s'appelait Accélogie,
oui.
Donc qui soutenait le développement de logements sociaux et tout ça.
Mm-hmm.
Bon, le programme Accélogie en ce moment est comme un peu sous respirateur artificiel, j'ai cru comprendre, parce que bon, il va y avoir des modifications. Le gouvernement provincial veut apporter des modifications à ce programme-là. Donc pour l'instant,
oui.
C'est un peu sur la glace. Alors, il n'y a pas d'aide directe là, qui s'en va directement à Interloge, mais il y a un certain nombre de programmes qui les aident à financer certains de leurs projets.
OK. Sinon, ils s'autofinancent suite à l'achat, oui. À la rénovation,
oui.
À la revente des immeubles,
oui,
des logements, tout ça.
C'est ça.
Alors, quel est le petit mot, le petit message que vous pouvez lancer à nos auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient bien apporter leur contribution?
Ben, n'hésitez pas à venir visiter l'exposition, puis ça donne une perspective historique vraiment importante d'une solution, d'une originale au problème du logement.
Oui.
Comment des gens se sont pris en main.
Un problème très criant d'ailleurs, il faut le préciser.
Exactement. Mmh. Comment les gens se sont pris en main pour se donner des solutions au problème de logement.
Oui.
Et peut-être que Interloge va devenir éventuellement un acteur vraiment très important, alors, de voir comment cet organisme-là est né d'un quartier populaire, c'est intéressant.
Pour ceux qui ne savent, merci beaucoup, Eric. Éco-musée du Fier, est situé au 2050 rue Atategen, c'est bien ça, Angle, Ontario, ça. Voilà, quelque chose comme ça.
Oui.
Merci beaucoup, Eric Giroux, et directeur responsable de la recherche et des collections du musée du Fier Monde. C'est le musée d'histoire et musée citoyen et pour les 45 ans d'innovation en habitation, Interloge, exposition qui a commencé depuis le 20 octobre jusqu'au 5 mars 2023. Merci beaucoup, Éric Giraud. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Merci à Eric Giraud, directeur, directeur, il est le directeur du musée, éco-musée du Fiermont. Voilà, éco-musée, il est le responsable aussi de la recherche et des collections. C'est dans le cadre des 45 ans d'innovation en habitation d'Interloge, cet organisme qui prend le temps d'acheter, de retaper, de reconstruire et de penser aux gens qui n'ont pas, aux personnes, aux familles qui n'ont pas assez d'argent pour se loger dans les quartiers luxueux, voilà, où les loyers ne sont plus du tout, voilà, à la portée de tout le monde. Merci beaucoup à cet organisme qui expose actuellement à l'écomusée du Fier Monde, qui est situé, comme je l'ai dit, l'adresse je l'avais donnée, je reviens encore là-dessus, 2050 rue Atategen, Angle, Ontario, métro Berwick-Ham, si je ne me trompe pas, quelque part, et voilà, c'est beaucoup.
C'est entre Ontario et Sherbrooke.
Et Sherbrooke, ouais. Voilà, c'est faisable en transport en commun ou bien en voiture, ou en vous débrouillez, vous parquez quelque part là. Et puis bon, ben, allez-y voir, c'est jusqu'en mars, jusqu'au 5 mars 2023. Très beau projet d'ailleurs, très belle exposition. Je vous verrai mon emploi du temps pour savoir si je pourrai assister au circuit urbain logement à louer du 29 octobre. Voilà, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont rénové, qu'est-ce qu'il y a à disposition, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre à disposition des familles qui n'ont pas les moyens de se loger avec des appartements qui coûtent dans les 2000, 3000, 4000, 5000 par mois, je ne dis pas par année, par mois, c'est beaucoup trop. Merci beaucoup à ceux qui sont derrière cet organisme. Voilà, on va parler un peu de tennis avant de finir l'émission. Il y a FAA. Ouais, qui est FAA? C'est Félix Auger-Aliassime. Qui vient de remporter, hein, le tournoi d'Anvers en Belgique, son troisième titre. Deux titres en deux semaines. Mais c'est fou. Dimanche. Il était en Italie, à Florence. Là, il a eu un titre là-bas, son deuxième titre au tennis. Et puis, bon, bah, il s'est retrouvé au tournoi d'Anvers en Belgique. Il se décroche encore un autre titre. Mathieu, il ne peut pas demander mieux que ça, non? À son âge, 22 ans. Ouais. Non, tu peux pas ne rien dire. Alors, voilà, c'est le temps où il perdait en finale, c'est fini. Comme le, non, c'est pas, c'est quoi, hein. C'est fini là. Il est bien, c'est bien derrière maintenant. Maintenant, il a eu 8 échecs en finale. Là, maintenant, ce n'est plus le cas là. Voilà, il y va là, à fond. Il a ouvert son palmarès cette année en Hollande, à Rotterdam. C'était en Florence ensuite, en Italie, et c'était à Anvers le dimanche, là. Ça, c'est parti pour lui, là. Je suis très content pour lui. Je suis très content pour lui, d'ailleurs. Et comme face à Richard Casquet, en demi-finale, FAA a su serrer le jeu dès que c'était nécessaire face à Sébastien Corda, qu'il a rencontré ce dimanche. 6-3, 6-4, sec. 2-7, très sec. Non, ils n'iront pas plus loin que ça. 6-3, 6-4. Il était précis, il était puissant, il était protégé par son service. Et n'oubliez pas, c'est l'oncle de Nadal qui est son coach depuis... Même autant, oui. Et comme Nadal, pour l'instant, il est devenu papa, et puis bon, ben, son état de santé ne lui permet pas de retourner sur les courts de tennis. Donc l'oncle a beaucoup plus de temps pour s'occuper de son poulet. Et on peut l'appeler comme ça, voilà. C'est l'oncle de Natal qui est le coach de le protégé. Comment il s'appelle? Tony Nadal. Voilà. C'est l'oncle de Rafa. Et quand tu as un coach comme ça, voilà, ça va à fond. Hein. On sait comment Nadal a raflé les trophées. Ouais, c'est comme ça. Donc, je vois bien un avenir meilleur pour ce garçon qui... Quand on va en finale 8 fois, qu'on ne décroche pas un trophée, et puis tout d'un coup, en moins de quelques temps, on se décroche 3. Bon, ben, je ne sais pas combien il va décrocher encore d'ici la fin de l'année. Et puis, je pense que ça va continuer comme ça jusqu'en 2023. Bravo à ce garçon. Voilà. C'est belle semaine sur la surface dure. Oui. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire encore? Et puis, d'ailleurs... Ça lui a permis d'avoir une option dans la course à la qualification pour le Master de Turin du 13 au 20 novembre 2022. Ça, je l'avais dit. Ça va l'envoyer loin, là. Il était à... Oui, vas-y, je t'écoute.
Non, je me demandais s'il avait une surface de prédilection ou ces les trois championnats, les trois prix qu'il a eus, c'était sur des surfaces différentes.
Oui, surface dure.
Okay.
Là, il ne fait pas de cadeau. Je ne sais pas, peut-être que sur le... Je ne sais pas ce qui va se passer... Peut-être que les 8 finales, les huit finales qu'il a eues, dont il a été victime d'échecs là-bas, peut-être que ce n'était pas sur des surfaces dures, mais ici, il a rencontré aussi des gens plus forts que lui, ça, il faut le dire. C'était les Djoko et autres, là, Djokovic. Voilà, bon, mais Nadal aussi, il a rencontré Nadal en finale. Bon, ça n'a pas marché. Et ce jour-là, je pense bien que les gens ont demandé à Nadal, mais est-ce que quand c'est comme ça, qu'est-ce que Tony te dit, ton oncle? il te coach, il coach Félix Aliassine. Et il dit non, il ne me dit rien, il nous coach différemment de toutes les façons. C'est très content pour lui, pour ce garçon-là. J'espère que son ami Chapovalov va aussi retrouver la victoire, le sourire, comme ça, comme on dit, la banane, pour essayer d'aller à fond dans les choses, dans leur carrière de tennisman. Bravo. Et puis, il y a une grosse histoire actuellement. Un instant. Il y a quelque chose qui se passe actuellement en Italie. Là, c'est du sérieux. Je ne voulais pas en parler, mais il faut que j'en parle parce que c'est la meilleure joueuse de volleyball en Italie. Elle est d'origine nigériane, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais elle est italienne. Elle n'a que 23 ans. C'est la meilleure joueuse. Elle vient d'être championne du monde, la meilleure marqueuse du championnat du monde. Voilà l'italienne Paola Egonu. Elle a été la cible de commentaires racistes de la part de ses compatriotes. Oui, de la part de ses. Parce qu'ils ont perdu un match face au Brésil, mais néanmoins ils ont battu les États-Unis avant-hier ou la semaine passée, et c'est donc l'affaire secoue le sport italien. Même le premier ministre italien Draghi s'en mêle parce qu'elle a dit après le sacre face aux États-Unis, je ne joue plus pour l'équipe nationale italienne de volley-ball. J'en ai assez. On me demande pourquoi je suis italienne. Est-ce que je suis une italienne de second rang? Ou bien je suis tout juste une Italienne. Son coach, son manager n'en revenait pas quand elle a dit ça. Il y a quelqu'un qui a pu prendre ça sur son cellulaire, capté avec vidéo. Elle était en pleurs. Le manager l'a prise dans ses bras. Elle a 23 ans. Il suffit que l'équipe perde. C'est elle qu'on accuse. 23 ans, vous lui donnez toutes les responsabilités. Elle est encore jeune. Elle n'est pas encore mature. Elle n'est pas mature. C'est parce qu'elle joue bien qu'on lui donne toutes les responsabilités. On doit lui donner tout. Et le premier ministre italien dit non, c'est pas comme ça. Je vais revenir là-dessus d'ailleurs. On n'a pas assez de temps. On termine en beauté, en musique. Voilà, avant de terminer en beauté, je vais te dire merci. Mathieu.
Ça fait plaisir.
Voilà, c'est Mathieu Tessier à la régie. Vous avez entendu sa voix. Il se moque de moi.
Non,
alors,
pas du tout.
Voilà. J'ai dit merci à Louise Thibault qui nous parlait de prendre de l'âge. Ouais, je n'aime pas trop le mot vieillissement. Prendre de l'âge. Voilà, c'est comme ça. Et puis j'ai dit merci à Karine au micro qui est venue nous parler de son nouvel album. Voilà, on se retrouve demain à la même situation du canal N, du canal M, et on termine en beauté avec qui? Angie Stone, No More Rain in the Cloud. Prenez soin de vous, merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure sur les ondes du canal M, et je vous laisse déguster cette belle pièce de Angie Stone, No More Rain in the Cloud. Sur ce, merci à Catherine Bourdon qui fait les recherches pour Escale 16-17. Ouais, je vois Mathieu qui danse là-bas derrière sa console. Allez, prenez soin de vous, de vos minutes, et je vous dis ciao. Broken spirit, lost and confused, empty skate, used and abused, a fool. On your face,
all over your face, yeah.
And the smile you used to wear seems a little bit out of
tracks of your tears.
Oh, hold on, in time it gets a little better. Oh,
my sunshine has come,
no more rain.
My sunshine.
It's only a thing.